Ah bah écoutez, c'est bien. Me fait enceinte Monique. 27 demain, Saint-Augustin. Sainte Monique c'est représente dans la cuvée des saints, des 153 du fils du pécheur, représente l'église suppliante. 3, c'est l'amour qui se concentre dans l'uni, confie tout en Dieu, qui attend tout de Dieu. 31, c'est le chiffre de Sainte Monique. Voilà. Bon, alors, nous terminons aujourd'hui notre cycle de méditation sur l'oraison. Nous avions vu les fois précédentes comment, à force de donner du temps chaque jour à Dieu, une transformation se réalisait. Une transformation extraordinaire qui avait ses lois, qui avait ses règles, qui avait ses consonances, qui avait sa musique, son harmonie, sa harpe et ses parfums. Les uns venant ordinairement après les autres. Alors on avait vu donc la dernière fois les demeures extraordinaires de l'apparition de notre humanité en Dieu, la sixième demeure. Une grosse bousculade dans la sixième demeure. Des extases, des ravissements, des vols de l'esprit. Et en même temps, des creux terribles de la nuit de l'esprit. Et l'ensemble est modulé par une espèce de langueur, d'une soif souffrante d'amour dont on ne voudrait jamais se débarrasser. Parce que nous avons vu la dernière fois les fiançailles de la sixième demeure. Sont quelque chose d'éminemment désirable. Pourquoi ? Parce que elles nous mettent à la porte de l'union sponsale avec Dieu. C'est que Dieu devient vraiment quelque chose. Il y a une unité de sponsale, une unité. Il y a des épousailles. Tout à fait extraordinaire, profonde, pas seulement physique, bien sûr, essentiellement spirituelle, essentiellement lumineuse, essentiellement surnaturelle, avec Dieu. On est emporté dans ce tourbillon d'épousailles, d'épousé par Dieu. L'oraison est faite pour ça, bien sûr. C'est que dès qu'on a rencontré celui qu'on aime, qu'il est notre moitié, qu'on est fondu et perdu en lui, et lui entièrement perdu en nous, on est entièrement changé. La transformation se réalise ici, à son point, j'allais dire, central. On est rentré à la porte de la demeure où Dieu ne cesse de nous attendre pour se précipiter sur nous et nous prendre tout entier et se laisser prendre tout entier dans ce tourbillon. Voilà, donc nous avions vu ça. Et on avait vu justement comment, toujours pareil, grâce à l'expérience que nous avons quand même de la vision naturelle. Depuis 2000 ans, on sait exactement quels sont les pièges qu'il faut éviter. Et il ne faut pas se laisser surprendre. Il ne faut pas se laisser surprendre en disant, mon Dieu, d'où ça vient, ça? Est-ce que ça vient du démon? Est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Est-ce que ça vient de Dieu? Et c'est pour ça que c'est très utile de faire la méditation que nous faisons. Il y a même des prêtres, des pères spirituels qui ne savent pas tout ça. Et ne sachant pas tout ça, quand ils se trouvent face à quelqu'un qui va se livrer entièrement, silencieusement, dans les effluves parfumées de l'instance divine, on dit non, non, il vaut mieux pas faire comme ça, c'est trop dangereux. Voyez. Et puis, ils vont vous faire dérouter vers, à nouveau, la méditation, vers l'action. Et du coup, il déroute l'enfant de Dieu dans une direction différente, alors que c'est évidemment le cœur de l'univers, l'ensemble de notre univers, l'ensemble de l'histoire de l'humanité, ne tourne qu'autour des personnes, des chrétiens, qui sont situés par Dieu entre la sixième et la septième demeure. toute l'histoire de l'humanité est centrée uniquement autour de ces gens-là. Il n'y a pas d'autre fécondité divine qu'à travers eux. Le but de leur raison, c'est d'entrer dans la sixième et la septième degré. Et donc il faut aller jusqu'au bout de leur raison. Il faut aller jusqu'au bout, je vais dire, de Dieu. Et Dieu, il faut qu'il aille jusqu'au bout de nous. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, on l'avait vu dans la sixième demeure, c'est que véritablement, ce qui sort de nous, c'est Dieu. Ce qui sort de Dieu, c'est nous. Un petit peu comme de la torpeur, de l'extase, du ravissement d'Adam, ce qui sort de lui, c'est la beauté de l'humanité dans sa perfection spirituelle. Et dans l'horizon, ce qui sort de nous, c'est Dieu vivant. C'est beau, ça, vous savez. Alors, c'est merveilleux. Mais évidemment, ça exige, nous l'avons vu, et il faudra tout le temps y revenir, ça exige de nous qu'il n'y ait aucune résistance. Et que dans la sixième demeure, il faut beaucoup de courage. L'immense, l'innombrable, le grand nombre des chrétiens qui n'arrivent pas au ciel, c'est parce qu'ils manquent de courage. Ils manquent de courage parce que c'est vrai que quelque part l'action de Dieu est terrifiante pour l'orgueilleux. Et il y a toujours de l'orgueil en nous. Et c'est à ça que sert la nuit de l'esprit. La nuit de l'esprit du sixième demeure sert à faire en sorte que de ces suavités les plus sublimes de la paix, jusqu'aux profondeurs de la nuit de l'esprit, j'allais dire la terreur de l'orgueil, l'anéantisse. Et qu'il n'y ait plus que cette disponibilité, l'humilité absolue de celui qui est la terre de Dieu. Et Dieu a trouvé sa terre, alors du coup, on va arriver dans les septièmes demeures. Dans la septième demeure, nous l'avons compris, vous avez tous compris, nous savons bien que la septième demeure, c'est celle de la perfection. Vous savez, si on fait horizon tous les jours, il n'y a pas de difficulté, je pense, pour nous de comprendre. Il faut être fidèle, bien sûr, il faut être courageux. Mais si on est fidèle, c'est on donne toujours notre temps quotidien à Dieu pour que c'est lui qui agisse dans notre contemplation, dans notre amour, dans notre don de nous-mêmes à lui-même. C'est lui qui agisse de plus en plus. À un moment donné, le Saint-Esprit prend notre place et puis agit et suragit et transactue sur nous tous nos actes. Et c'est-à-dire anéantit notre propre puissance à agir en agissant lui-même. Puis ensuite de plus en plus dans l'horizon, c'est Dieu qui est là. Et on est englouti délicieusement, engolfé à l'intérieur de Dieu. Si on est fidèle et si on est courageux, à un moment donné, c'est vrai, le Seigneur nous transforme vraiment. Et il y a des flammes qui sortent du centre de sa présence. Et ces flammes, d'un seul coup, font des choses admirables, inattendues et surprenantes. Exactement le contraire du voyage astral. Et le voyage astral est tout parti comme ça, tandis que dans les vives flammes de l'amour de Dieu, dans l'horizon de la transformation, c'est une introduction dans le ciel, glorifié de la résurrection et de la très sainte Trinité. C'est tout l'univers qui, au contraire, c'est tout l'astral qui est absorbé à travers nous en Dieu, et Dieu qui nous fait partir dans ce ravissement. C'est un rapt. C'est le rapt du Créateur. Créer un monde nouveau. Et une fois que le monde nouveau, qui est le nôtre, acquiesce, voyez, acquiesce de manière habituelle, à un moment donné, une alliance se fait, une alliance explicite. Et pas très difficile à repérer. Mais. Et qui fait que ça y est, on est marié avec Dieu, on est rentré dans le mariage. Le mariage fait que nous ne connaîtrons plus la mort. Celui qui rentre dans le septième demeure ne connaîtra plus la mort. Déjà la sixième demeure, vous savez, quand même. La sixième et la septième demeure, vous sentez bien, elles sont très, 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 très proches. Il y en a une qui est très agitée, parce qu'elle est extraordinairement purifiante, il faut beaucoup de courage, et l'autre n'est pas du tout agitée. Dans la septième demeure, l'humilité est vaincue, si je puis dire, par Dieu. La grandeur de Dieu est tellement évidente, tellement permanente, qu'il n'y a pas la moindre tentation, si je puis dire. Même s'il y avait des tentations, il n'y a pas le moindre mouvement de notre orgueil, de notre autosatisfaction à être arrivé, par exemple, à la septième demeure. Je suis arrivé à la septième demeure. Pas le moindre mouvement de ce genre, vous voyez. Alors, du coup, c'est beaucoup plus serein. La caractéristique de la septième demeure, c'est que Dieu et l'âme sont indissolublement et continuellement présents l'un de l'autre. Il y a une indissolubilité. Le mariage est réalisé, et c'est jusqu'à la mort, et jusque dans l'éternité, et c'est tout. Et voyez, vous comprenez bien que ce n'est pas un article de foi. Dire oui, je crois à ça. Non, non, c'est un fait. C'est un fait de l'expérience surnaturelle chrétienne qui fait que je suis. Le mariage est consommé avec Dieu. Il est tout à moi et je suis entièrement à lui. Et c'est un petit peu comme si les impressions qu'on en a, c'est un petit peu comme si, et en même temps ce n'est pas faux, c'est un petit peu comme si toute la création, tous les autres hommes, était comme concentré sur notre mariage, un petit peu comme quand le jour où vous avez un mariage, vous assistez à un mariage, ben vous êtes là, vous êtes tous les deux devant le Seigneur, puis devant les hommes, et tout est concentré sur vous. Dans le mariage spirituel, il y a quelque chose de semblable, du reste qui n'est pas, et ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout inexact, ni présomptueux, je veux dire. Vous êtes unique dans le mariage et Dieu est unique pour vous. Et quelque part, il y a quelque chose de très, 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 très extraordinaire. Puisqu'on est au centre de l'union hypostatique pour le monde entier, pour le monde de la résurrection, pour le monde de la création, pour le monde du temps et pour le monde intime de chacune des processions divines. On est au cœur. On est le foyer de tout ça. Et donc, la caractéristique de la quatrième demeure, c'est l'indissolubilité. Et ça, vous verrez que le jour où vous serez dans l'horizon de la septième demeure, vous éprouverez de manière palpable cette indissolubilité. En même temps, une immense sérénité. Deuxième caractéristique, une sérénité indestructible. Et les grandes secousses qui pourraient advenir, et les bombes atomiques qui explosent de tous les côtés, puis je ne sais pas quoi, ça ne va rien du tout. Vous serez dans une sérénité immense. Le moindre danger ne vous effleurera aucunement, n'engendrera en vous aucunement quelconque espèce de peur. Une sérénité. Pas une sérénité, en même temps, vous voyez, c'est très différent de la sixième demeure. Il y a une très grosse différence entre la sixième et la septième demeure du point de vue de la sérénité. La sixième demeure, on est très, 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 très agité, si je puis dire. C'est Dieu qui vous agite, puisque vous partez en extase. Tout s'est ravi. C'est le vol de l'esprit. Vous êtes plongé dans le feu de la souffrance. Et la croix et la nuit. Et d'un seul coup, il y a un moment donné où Dieu vous apparaît. Vous êtes, c'est ce qui fait d'ailleurs le passage, Dieu vous apparaît, Jésus vous apparaît, et en même temps que vous le voyez là, devant vous, Jésus, en même temps, il apparaît à l'intérieur de vous, simultanément. Et de l'intérieur de vous, il fait surgir la lumière de son Verbe, et la lumière de son Verbe vous fait rentrer dans ce qu'on appelle une apparition surnaturelle, intellectuelle, c'est-à-dire que vous vous trouvez d'un seul coup dans une vision surnaturelle de Dieu. Alors, visage, ce n'est pas une vision imaginaire. En même temps, vous avez Jésus, vous voyez de vos propres yeux. En même temps, Jésus, vous le voyez dans sa gloire, dans son onction glorieuse de l'intérieur de vous. Et en même temps, vous avez une vision intellectuelle de Dieu qui vous fait voir ce qu'il est à l'intérieur de lui-même et comment il est à l'intérieur de vous depuis le début et qu'il attendait cet instant-là, tout en attendant à l'intérieur de vous, au centre de la demeure du château, de votre château intérieur, à chaque fois que vous étiez en prière, il était là et il attendait cet instant pour se manifester. Les portes de la demeure centrale du château s'ouvrent d'un seul coup et il montre ce qu'il est à l'intérieur de lui-même et en même temps qu'il est à l'intérieur de vous, de l'intérieur de votre même, comme il l'a toujours été, mais cette fois-ci il se montre. Et donc vous le voyez surnaturellement dans une vision contemplative surnaturelle, et du coup vous voyez toute l'étendue de ça, de son intimité trinitaire, vous voyez ce qu'il est, et chacune de ces intimités vous brûle, vous enflamme, vous languisse, vous transforme, vous caresse, et vous plonge dans une sérénité qui est celle de Dieu, celle qui va d'abîme en abîme. Quelquefois, le mariage est accompagné. Mais c'est rare, et ça n'a aucune espèce d'importance, parce que c'est juste pour quelques-uns, pour que dans l'Église, les chrétiens repèrent le passage de la 6e à la 7e demeure. C'est à ce moment-là, quelquefois, il y a certains saints, vous voyez, comme Marthe, Robin, par exemple, et bien, le Seigneur met un anneau mystique visible de lumière pour signifier le mariage. Pour Thérèse d'Avila, par exemple, aussi, il y a le mariage. Il y a des sauts comme ça. C'est ce qui est arrivé à Saint François d'Assise lorsqu'il était sur la montagne, vous savez, qu'il était au bout de la nuit de l'esprit et que Jésus lui est apparu tout glorieux et de l'intérieur, cette même gloire s'est manifestée du dedans de lui et a transpercé ses mains, ses pieds, son côté de gloire. Et cette stigmatisation glorieuse est un mariage spirituel. Enfin, il faut faire la très grosse différence entre la stigmatisation pathologique, qui est avant même la première demeure, la stigmatisation des troisièmes demeures, voyez, ou même des deuxièmes demeures, ces espèces de chaleur ou de pointe que nous avons, et la stigmatisation sanglante, quelquefois, des cinquièmes demeures. Et puis la stigmatisation, la vraie stigmatisation, la stigmatisation surnaturelle, qui, elle, est celle du mariage spirituel. Oui, parce que vous verrez quelquefois des gens, tu sais, je suis stigmatisé. Ah, c'est sûrement vrai. Je n'en rirai pas. Mais c'est peut-être pas celle du mariage. Et de toute façon, il faut mépriser profondément toutes les autres. Mais il ne faut pas mépriser le mariage spirituel de la septième demeure. Parce qu'on ne méprise pas l'engagement éternel de Dieu vis-à-vis de quelqu'un et qu'il réalise de cette terre pour aspirer la terre tout entière dans ce mariage et réaliser sa rédemption de manière infaillible grâce à cette personne-là. Tous les démons, tous les princes de l'enfer sont vigilants et veillent sur quelconque chrétien qui pourrait arriver à la sixième ou à la septième demeure. Ils sont prêts à délaisser plus d'un milliard d'êtres humains de toute tentation pour s'attaquer à celle-ci, parce qu'elle compte plus que ce milliard d'êtres humains en fécondité, en amour, en puissance de rédemption, en sérénité, en infaillibilité. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est l'intimité. L'intimité parce qu'à partir de ce moment-là, on est tout à fait intime. C'est-à-dire que c'est l'intimité de chacune des trois personnes de la Très Sainte Trinité qui découvre notre propre intimité dans leur intimité. Donc l'union est très intime. Elle est très intime. Et c'est Dieu qui opère cette union et qui réalise continuellement cette transformation. Il est bien évident que du coup, que du coup, il n'y a plus de mort pour ces gens-là. Pourquoi ? Parce que s'ils ne meurent pas, c'est en raison d'un miracle. C'est en raison d'un miracle. Et c'est le miracle qui vient en vérité de la volonté de Dieu, qui désire quand même qu'il y ait quand même dans le corps mystique de Jésus sur la terre, eh bien, sa présence parfaite de la septième demeure pour irradier de sang glorieux et du mariage spirituel tout le sang du corps mystique vivant de Jésus vivant, donc de tous les chrétiens, à travers eux. Mais bien évident, vous voyez, déjà même dans la sixième demeure, si quelqu'un en venait à mourir, eh bien, il ne connaîtrait pas la mort, parce que la mort, elle vient ordinairement de l'affaiblissement des puissances, de l'affaiblissement du corps, de l'affaiblissement de l'âme, qui donne son dernier souffle en raison d'un épuisement qui vient de la terre et des conséquences du péché. Tandis qu'ici, ces personnes-là ne connaissent pas la mort. Pourquoi ? Un chrétien ne doit pas connaître la mort. Il ne doit pas connaître la mort. C'est d'abord le Christ qui vient, qui se manifeste une nouvelle fois, et puis c'est cette espèce d'amour qui emporte la personne dans un vol de l'esprit serein, infaillible et éternel, dans l'intimité des personnes divines, et l'introduit dans la vision béatifique. Et je peux vous dire qu'elle ne voit aucune différence entre l'oraison qu'elle avait faite la semaine précédente et cette entrée dans la vision. Elle ne connaît pas la mort. D'ailleurs, vous voyez vous-même, quand vous avez des personnes qui font oraison puis qui meurent, enfin qui meurent, et puis qui donnent leur dernier souffle, vous voyez, vous avez sûrement déjà assisté l'un ou l'autre, non, peut-être pas. D'abord, ils sont là, et puis hop, ils sont déjà partis avant de mourir. Ils sont déjà partis avant de mourir. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Le corps s'éteint avant, après la mort. C'est merveilleux de voir ça. Les infirmières trouvent ça très drôle. Alors, pour terminer, ces choses-là sont difficiles à décrire, mais j'aurais été désolé qu'il y en ait parmi nous qui n'aient jamais lu « Vive flamme d'amour » de Saint Jean de la Croix. Ça aurait été terrible, ça. Et comme je sais que de toute façon, certains ne liront pas, on va lire quelques passages. Les flammes d'amour, c'est trop bien parce que c'est quatre strophes, le poème de Saint Jean de la Croix, et puis ma foi qui décrit ce qui se passe en toute vérité, quoi, dans ces oraisons, dans ces moments où la transformation de Dieu opère à l'intérieur de nous, continuellement. Et en même temps, les autres ne le voient pas. Vous voyez, la caractéristique de l'intimité fait que personne ne le voit que celui qui en est majorisé. Vous voyez ? Oh vive flamme d'amour, vous me blessez dans le centre le plus profond de mon âme, puisque vous ne me causez plus de chagrin. Accomplissez votre œuvre, si vous le voulez bien. Déchirez la toile qui s'oppose à notre douce rencontre. Ô brûlure suave, ô plaie délicieuse, aux douces mains, aux touches délicates, qui a la saveur de la vie éternelle, qui paye toute dette, qui donne la mort et change la mort en vie. Ô lampe de feu, splendeur des profondes cavernes du sens qui était en nuit aveugle, donnant avec une perfection extraordinaire chaleur et lumière tout à la fois à celui qui l'aime. Ô douceur, amour, vous vous réveillez dans mon sein, où vous demeurez seul, en secret, ou seul caché, ou seul scellé. Mais bon, l'espagnol n'est pas si facile que ça. Et avec votre aspiration savoureuse pleine de bien et de gloire, quelle délicatesse, vous mettez à m'embraser. C'est extraordinaire, hein? Retenez bien ça, quelle délicatesse. Vous mettez à m'embraser. Et voilà les je vous ai lu tout, Vive l'âme d'amour, mais Saint-Jean de la Croix commence. Alors, je vais tout simplement, je vais tout simplement lire quelques passages, vous comprenez, on ne peut pas lire tout le Vive l'âme d'amour, parce que c'est un bouquin. Ici, c'est juste quelques petits points, quoi, des petits points pour diriger, pour dire. Parce que n'oublions pas quand même une chose, c'est que ce mariage de la septième demeure nous appartient. Et donc il faut entendre ce mariage. Il faut laisser librement la possibilité libre à ce mariage de s'exprimer. Il faut faire oraison. Il faut donner à Dieu cette liberté d'amour et de transformation délicate et embrasée. Il le faut. Oui, c'est pas une loi, mais il le faut. Ô vive flamme d'amour, ô flamme de l'Esprit Saint, oui, il commence ici, ô vive flamme d'amour, comme vous me blessez avec tendresse dans le centre le plus profond de mon âme. Alors, on va laisser Saint-Jean de la Croix faire le commentaire. Ô flamme de l'Esprit Saint, qui transperçait d'une manière si intime et si tendre la substance de mon âme. Ô Esprit Saint, qui brûlait de votre glorieuse ardeur si merveilleusement la substance de mon âme, ce qu'on a appelé l'essence de l'âme, de votre glorieuse ardeur, puisque vous êtes si pleine d'amour, flamme enflammée, que vous me manifestiez le désir de vous donner à moi, à la vie éternelle. Si jusqu'à ce moment de maintenant, mes demandes ne parvenaient pas à être entendues de vous, quand au milieu des angoisses et des souffrances de l'amour que vous me faites pâtir et subir, alors que mes sens, ce que j'en ressens, mon esprit, ce que j'en vois, gémissent à cause de mon extrême faiblesse, parce que c'est vrai, quand on est embrassé comme ça la substance de l'âme par ce Dieu, on est dans un état d'affaiblissement, de sérénité, d'intimité, d'infaillibilité. C'est pas une pâmoison, vous voyez, pas du tout. C'est au contraire une force. Alors que mes sens et mon esprit gémissaient encore, dans les temps antérieurs, vous ne m'aviez pas tout donné de mon impureté, de mon peu d'amour, je vous priais de me délivrer de tout ce qui restait de mes liens et de m'emmener avec vous. Mon âme vous désirait tellement, si ardemment, mais mon amour était impatient. Il ne me permettait pas d'être entièrement un conforme à cette condition de vie que vous demandiez de moi. Parce que les transports d'amour passé n'étaient pas suffisants. Vous voyez, les transports d'amour, les rates, les ravissements, Dieu, transitoires, n'étaient pas encore assez puissants. Ils n'avaient pas les qualités requises pour me faire vivre ce que vous me faites vivre ici, maintenant. Mais maintenant que mon amour a reçu votre propre force d'amour, non seulement mon esprit, ma chair, ne défaille plus en vous, mais au contraire, mon cœur et ma chair, rendus forts du dedans de vous, se réjouissent dans le Dieu vivant et se conforment de manière absolue à votre amour, à vos désirs, à vos invasions éternelles entre vous-même, et par vous-même et pour vous-même. Maintenant, je ne demande plus que ce que vous voulez que je demande. Ce que vous ne voulez pas, je ne le veux pas. Je ne puis pas vouloir, et l'idée même ne peut pas venir à mon esprit de vouloir ce que vous ne voulez pas. Puisque maintenant mes prières sont à vos yeux plus fortes et plus agréables que celles de toute la terre, parce qu'elles viennent de vous, et vous m'engagez à vous les restituer, à y faire écho à l'infini de votre intimité, je vous les adresse avec toute la saveur que vous m'y mettez et la joie du Saint-Esprit qui m'enflamme, aux flammes, vive flamme, comme vous me blessez avec votre adresse, dans le centre le plus profond de mon âme. Je vous dis donc, déchirez la toile déchirer la toile qui s'oppose à notre douce rencontre. Déchirer la toile enfin si légère de cette vie. Ne la laissez pas parvenir à l'âge et aux années où elle serait naturellement coupée. Ne me faites pas reconnaître la mort. Je veux partir tout de suite. De sorte je pourrai vous aimer immédiatement, avec plénitude, et ce rassasiement que désire mon âme, ce sera sans mesure et sans fin. Et saint Jean de la Croix, voyez, il faisait remarquer aussi une chose, comme saint Thérèse d'Avila d'ailleurs, que dans la septième demeure, il y a ce désir, bien sûr, on sait qu'on est au bord de la vision béatifique, qu'on ne va pas connaître la mort. Et cependant, on n'a absolument pas la volonté de mourir dans la vision béatifique. Voyez. Parce que c'est la volonté de Dieu qui compte. Il n'y a aucun désir d'être emporté dans la vision béatifique, bien qu'il y ait un désir très très enflammé d'être dans la vision béatifique. Vous voyez, un petit peu comme les âmes du purgatoire qui arrivent au parvis, il ne reste plus que ce dernier voile. Alors eux, ils brûlent de souffrance de se dire que ce dernier voile se déchire. Eh bien, si nous sommes sur la terre dans le corps, dans la chair, dans le sang, pas encore mort, dans l'union transformante, eh bien nous n'avons pas ce phénomène des âmes du purgatoire lorsque du parvis, il ne reste plus que ce dernier voile très très très, très fin. Les sépare de la vision. Il n'y a pas cette souffrance. Pourquoi ? Parce que notre volonté est uniquement dans la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Et de ne pas nous y emporter, ce n'est pas la nôtre non plus. Par contre, vous voyez, dans les sixièmes demeures, je ne sais pas si on l'avait dit, il y a ce désir de mourir. Dans la septième demeure, il n'y est plus. Vous comprenez ? Deuxième strophe, ô brûlure suave, ô plaie délicieuse, ô douce main, ô touche délicate, qui a la saveur de la vie éternelle, qui paye toute dette, qui donne la mort et change la mort. L'explication de saint Jean de la Croix. Dans cette strophe, celui qui est exposé à l'amour parfait de Dieu, vois comment les trois personnes de la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réalisent d'eux-mêmes, par eux-mêmes, et de leur propre puissance, du dedans d'elles-mêmes, cette suave œuvre de transformation divine de l'union, du mariage. C'est beau ça. Quand vous voyez comment le Père, de lui-même, de sa propre puissance, ne me transforme mon intimité dans un mariage spirituel, mais pareil pour le Fils. Et simultanément pour le Saint-Esprit. Et je réalise et je pâtis ce tourbillon, cette intimation. Cette perte, vous voyez. Ainsi la main, ô brûlure suave et pleine délicieuse, ô douce main. La main. La brûlure et la touche sont substantiellement une seule et même chose. C'est beau ça, la main, la brûlure et la touche délicate. C'est la même chose. La main, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, voyez, et qui font une transformation dans mon intime et je vois très très bien qu'il s'agit de ces personnes. D'avant la création du monde et du dedans de la création. Mais ces noms qu'elle donne, main, brûlure et touche, dessinent les personnes divines en raison des effets qui sont produits différemment par chacune. Le principe, le Père, l'époux, ne me transforme pas de la même manière que le Verbe. Et la passivité substantielle d'amour, l'amour tout pur, ça ne me transforme pas de la même manière que l'épouse. Vous voyez ? La brûlure est attribuée à l'Esprit Saint, la main au Père et la touche délicate au Fils. Or l'âme glorifie dans cette strophe le Père, le Fils et le Saint-Esprit en exaltant trois insignes faveurs et trois biens dont ils s'enrichissent. C'est les personnes elles-mêmes qui s'enrichissent elles-mêmes en le faisant parce qu'en changeant sa mort en vie, ils l'ont transformée au dedans d'eux-mêmes, en eux-mêmes. La première de ces faveurs est une plaie délicieuse. Elle est attribuée à tout ça. Et oui, c'est à cause de ça que dans la septième demeure, c'est ce que les intéresse d'Avila. Elle se caractérise par une soif insatiable de souffrir. Parce que c'est pas parce qu'on aime souffrir, mais c'est parce que Saint-Esprit nous transforme en une immense plaie délicieuse. Et si un abîme de souffrance venait de dedans se joindre à ce brasier ardent du feu du Saint-Esprit, alors cette plaie délicieuse s'élargirait dans cet abîme nouveau. Et voilà pourquoi l'âme, dans le mariage spirituel, a une soif insatiable de souffrir. Voilà pourquoi les chrétiens qui ne sont pas chrétiens ne veulent pas souffrir. Je dis bien, les chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Ceux qu'on a lus dans l'Évangile, ceux qui... Et on leur retirera même ce qu'ils croyaient avoir. L'amour de la croix, vous savez. L'amour de Jésus crucifié. Mais il arrive aussi que l'âme se sente attaquée intérieurement, par exemple, par un séraphin. Je vous fais des passages, hein, parce que cet esprit céleste, cet esprit de la gloire de Dieu, embrassé de la famille de Dieu, un séraphin, armé d'une flèche ou d'un dard, tout embrasé du feu de l'amour, transperce la substance de l'âme, qui est déjà tout en feu depuis longtemps, parce qu'elle est déjà mariée comme un charbon rougi, ou plutôt qui n'est plus qu'une flamme à elle toute seule, il la brûle d'une manière sublime. Par un dard graphique. Évidemment, pour nous qui faisons pas horizon, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est ces dards séraphiques? Je vous l'ai dit tout à l'heure, Saint François d'Assise, c'était un dard séraphique. Hein, son mariage. Il la brûle d'une manière sublime. En même temps, il la transperce de son dard, et alors la flamme de l'âme, c'est-à-dire la lumière, l'intériorité, tout entièrement transformée du dedans de Dieu en Dieu lui-même, s'agite et monte aussitôt avec force, comme celle d'une fournaise embrasée lorsqu'on y attise le feu. Et qu'ainsi, quand l'âme est blessée par ce dard enflammé, elle sent, elle l'éprouve nettement, une plaie de délice inexprimable. Elle est tout entière remplie de suavité quand elle reçoit ce coup impétueux du séraphin. Elle découvre une ardeur extrême, une défaillance d'amour. Elle sent la blessure délicate qu'elle a reçue et la vertu merveilleuse de cette herbe qui a servi à bien tremper le dard, dont la pointe aiguë, pénétrant la substance de son esprit, a transpercé jusqu'à sa chair, son sang, son cœur, son esprit et sa substance tout entière. J'espère que ça vous arrive souvent. C'est dans ce point intime où s'est produite la blessure, au milieu du cœur de l'esprit incarné, semble-t-il, que se perçoivent les plus enivrantes délices de celui qui est marié à cet admirable exercice divin. Et qui pourrait en parler comme il convient? Personne, de toute évidence. L'âme sent en tout cas là comme un grain tout petit, semblable à un tout petit grain de s'élever, mais extrêmement puissant, actif, embrasé, qui projette autour de lui les flammes les plus vives d'un feu tout embrasé d'amour. Ce feu provient de la substance, l'osia. Et la qualité intérieure de ce point brûlant où se trouve la substance, et la qualité de cette herbe dont nous avons parlé, l'âme, sans qu'il se répand d'une manière subtile dans toutes ses veines spirituelles et substantielles. Mais selon sa puissance à lui, et selon son énergie, et elle le sent tout à fait. Vous vous rendez compte, toutes nos veines, et dans toutes les parties substantielles, lui, il ne sait pas que c'est les cellules, hein. Ça, je me crois, c'est pas ce que c'est que... C'est énorme. La partie substantielle du sang. Alors, elle en est fortifiée. Ah oui, donc, l'âme s'engage dans toutes les veines spirituelles et substantielles, mais selon sa puissance à lui et son énergie à lui, elle en est fortifiée, vous vous rendez compte? Elle en est fortifiée. Et elle en éprouve une ardeur extrême, Son amour se purifie alors à un point tel qu'il lui semble découvrir en elle des mers immenses, d'un feu d'amour qui atteint toutes les hauteurs, toutes les profondeurs de tout ce qui existe, même en Dieu. Il remplit tout d'amour. Il semble alors à l'âme que l'univers entier est une mer immense d'amour, où elle est elle-même submergée sans qu'elle puisse voir le terme ou la fin de cet amour, parce que ce terme, cette fin sont invisibles et inatteignables. Mais comme nous l'avons dit, elle voit que c'est en elle-même que se trouve le point de départ, et qu'elle est elle-même le centre de cet amour éternel. Les délices dont l'âme est alors comblée dans cet état ont quelque chose d'inexprimable. Voilà pourquoi le poème dit « Ô douce main, ô touche délicate ». Cette main symbolise le Père éternel. Voilà ce que fait le Père dans le mariage spirituel, qui est plein de miséricorde et donne l'amour quoi qu'il arrive à tous, dans sa toute-puissance miséricordieuse. La touche délicate, elle, c'est le Verbe, le Fils de Dieu, qui, vu la délicatesse de son être divin, pénètre d'une manière subtile la substance de mon âme en la touchant tout entière avec beaucoup d'attention. Oh, vous, touche délicate, Verbe, vous avez absorbé tout entière ma lumière intérieure au-dedans de vous. Et vous employez des moyens tout divins pour la combler de délices et de suavité dont on n'a jamais entendu parler dans la terre de Canaan et qu'on n'a jamais vu dans le pays de Théman. Retouche délicate et souverainement délicate du Verbe, comme vous l'êtes à mon égard, c'est vous qui, après avoir renversé les montagnes et brisé les rochers sur le mont Rêve, sixième demeure, par l'ombre de votre puissance et de votre force qui marchait devant vous, vous êtes révélé d'une manière plus suave et plus forte au prophète dans le souffle d'une brise légère. Et c'est vrai que quand la transformation s'opère du Verbe dans l'âme, c'est quelque chose qui relève plus de la brise et de la touche et de la délicatesse. C'est sûr. Il est l'épouse. C'est sûr. Et du coup, il se manifeste plutôt à la source de lumière contemplative de notre esprit, qui l'épouse en tant qu'épouse. La lumière de notre esprit est dans la main du Père. C'est pour ça qu'il le fait délicatement. Revenons maintenant à l'explication de notre Verbe. L'âme reconnaît donc que tout a été pour son bien, et que si elle a été dans les ténèbres, sixième demeure, elle est désormais dans la pleine lumière. Si elle a été plongée dans les tribulations, elle a maintenant son repos, son port de consolation dans le royaume. Elle est surabondamment dédommagée de ses souffrances intérieures et extérieures par les biens divins qui lui sont accordés ainsi qu'à son corps. Il n'y a aucune de ces épreuves qui n'ait reçu un salaire particulier d'un prix qui dépasse largement le centuple. Vous voyez, parce que les souffrances que nous avons eues sont différentes souffrances suaves de la croix surnaturelle. Parce que ces croix surnaturelles nous ont élargi des abîmes de plaies divines. L'anéantissement divin à la sixième demeure, de nuit de l'esprit. Dans ces langueurs d'amour inexprimables et dont on ne peut désirer que des langueurs encore plus inexprimables d'amour, de souffrance, de croix. Et bien, dans le mariage spirituel, le Seigneur dit, un petit peu comme dit le Père Armingeon, vous voyez, il dit ben, ah, elle m'a donné tant, elle m'a donné à mon tour, à moi maintenant, de me donner sans mesure. Et plus tu t'es livré à la souffrance de Jésus crucifié dans la nuit de l'esprit et dans une langueur d'amour, d'unité parfaite, de fiançailles, et que tu as pu survivre grâce à ces forces qui t'étaient données dans les différentes extases, ces touches ravissantes des sixièmes demeures, si si avec le courage j'étais jusqu'au bout de l'action divine, alors à ce moment-là, dans la septième demeure, à mon tour de me donner à toi, sans mesure. Alors, elle déclare dans cette strophe combien elle est satisfaite quand elle dit « Vous payez toute dette ». Elle rend grâce à Dieu en disant « Vous payez toute dette » comme le faisait David dans l'un de ses psaumes après avoir été délivré de ses épreuves. Qu'elles ont été nombreuses et amères, les tribulations que vous m'aviez infligées. Mais vous m'en avez complètement délivré, vous m'avez retiré des abîmes de la terre. Vous avez déployé toute votre magnificence et vous tournant vers moi. Vous m'avez inondé de consolation. C'est beau ce témoignage de Saint Jean de la Croix, qui reconnaît dans David que le roi David a connu le mariage spirituel. C'est beau ça. Vous savez, roi David, pourquoi est-ce qu'on répète dans tous les monastères, tous les jours, les psaumes de David ? Là-bas, on a un disciple de Christ qui nous répète tous les jours le psaume de David. Et vous voudrez que David ne soit pas passé par le mariage spirituel. Il y en a qui me font rire. Elle connaît avec évidence les grâces qu'elle a reçues. Elle le voit en outre tout appliqué à la réjouir par des paroles éminemment précieuses, délicates et pressantes, à l'enrichir de faveurs toujours nouvelles. Il lui semble même que Dieu n'a pas d'autre âme en ce monde à qui il puisse procurer ses délices, qu'il n'a pas d'autre chose à faire et qu'il se donne tout entier à elle seule. Telle est l'impression qu'elle en éprouve. Et elle la confesse hautement. Et elle le dit dans ce verset. Comme d'ailleurs dans le Cantique des Cantiques, « Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. » Troisième strophe. Ô lampe de feu, dans les splendeurs desquelles les profondes cavernes du sens, qui étaient nuit et aveuglement, donnent avec une perfection extraordinaire chaleur et lumière tout à la fois à leur bien-aimé. Ça, c'est la troisième strophe. Elle est très belle, la troisième strophe, parce que c'est dommage qu'on ne l'ait pas en espagnol. Bon, mais. En français, c'est pas aussi chantant, mais c'est l'explication qui est belle, parce que les cavernes des sens qui vont produire chaleur et lumière à Dieu. C'est beau parce que Dieu nous donne de l'amour, mais vous allez donner un amour de complémentarité. L'amour rendu à Dieu dans la réciprocité de l'accueil et du don va nous faire donner beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour à Dieu. Et bien sûr, sinon il n'y a pas de mariage. Et tout ça se produit dans les cavernes du sens. Et les cavernes du sens sont l'intelligence toute ouverte aux dimensions intimes de la contemplation de Dieu, le cœur de l'homme entièrement embrasé par cette plaie extraordinaire qu'il élargit aux dimensions du Saint-Esprit, et enfin la liberté du don, la mémoire de Dieu, qui est un habit d'accueil. Et du coup, Dieu peut se servir de ça pour donner, pour que vous, celui qui est marié avec Dieu, donne une chaleur, un amour à Dieu, qui soit en affinité avec celui que lui-même donne, et en supérieur lequel aime, et lequel est aimé. Plaise à Dieu de m'accorder ici sa grâce, car elle m'est bien nécessaire pour expliquer le sens profond de cette strophe. Procédons avec attention, soyons attentifs. Car si celui qui entend ces vers n'a pas d'expérience spirituelle, il trouvera peut-être mon explication obscure et confuse, mais s'il a le bonheur d'avoir l'expérience de la prière, il la trouvera parfaitement claire et pleine de saveur. Dans cette strophe, la lumière intérieure de celui qui vit le mariage exalte celui qui l'épouse, Dieu lui-même, et lui rend grâce des hautes faveurs qu'elle reçoit de son union avec lui. Et c'est par là, et elle le reconnaît ici, que lui sont venues de nombreuses connaissances sur l'intimité de son existence intérieure, qui sont toutes pleines d'amour. Oui, parce que dans le marais spirituel, vraiment, je rentre à l'intérieur de l'existence de Dieu, dans l'être de Dieu, et dans l'intimité personnelle de Dieu, et j'ai une connaissance vraie de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et cette connaissance sensuelle. De telles connaissances sont éclairées, remplies d'amour, ses propres puissances, contemplation, cœur et liberté. Et ses sens, sa sensibilité elle-même, en a été remplie. Alors qu'avant ce mariage, toutes ces puissances et cette sensibilité étaient aveugles et nues. Mais il faut vraiment passer par la croix et la nuit. Hein. Celui qui dit non, moi je vais au ciel sans passer par la croix, la purification de la sensibilité, la purification des racines, la purification de la mémoire, je ne veux pas connaître la nuit de l'esprit, moi. Hein. Ah non. Ah bon, alors, tu rentres chez monsieur, hein. Et puis tu tournes autour de toi, tu fais du sophisme. Dervis. Et puis quand tu t'étends le bras, ça sera en bas. Hein. Alors. Oui, désormais toutes ses facultés étant éclairées, embrasées d'amour, elle peut mieux connaître et aimer celui qui l'a tant comblé de ses dons. Le véritable brûlé d'amour n'est pas heureux si tout ce qu'il est en soi, tout ce qu'il vaut, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il reçoit, il n'emploie pas pour celui qu'il aime. Bien sûr, plus il possède et plus il est heureux de lui donner tout entier ce qu'il a. Tel est le motif pour lequel l'âme se réjouit ici. Car vu les splendeurs de l'amour dont elle est l'objet, elle peut à son tour resplendir. Elle peut resplendir à son tour du dedans et au face à face de son époux et l'aimer. Voilà pourquoi elle dit « Oh, lampe de feu !» Mais comme quoi, quand vous lisez une strophe de Saint Jean de la Croix, « Oh, lampe de feu !» il y a 8 pages sur lampe de feu. Évidemment. Tout d'abord, rappelons-nous que ces lampes ont la double propriété de briller, de communiquer de la chaleur. Pour comprendre de quelle lampe il s'agit ici, comment elle brille et brûle dans l'âme pour lui donner de la chaleur à Dieu, à toute l'intimité de Dieu. Vous réchauffez toute l'intimité de Dieu, c'est pas beau ça? Alors, il faut savoir que Dieu renferme dans l'unité et la simplicité de son être toutes les vertus et toutes les grandeurs de tous ses attributs personnels. Il est tout puissant, sage, bon, juste, fort, plein d'amour. Il possède encore une infinité d'attributs et de vertus que nous ignorons. Dès lors qu'il est toutes ces choses dans la simplicité de son être, il peut, quand il lui plaît, donner à l'âme avec laquelle il est uni, la connaissance exacte, précise, savoureuse, lumineuse, de chacun de ses attributs, de toutes ses vertus, distinctement, ses grandeurs, à savoir sa toute-puissance d'amour, sa sagesse, sa saveur, sa bonté, sa toute-puissance, sa miséricorde. Elle voit également que chacun de ses attributs est, à lui tout seul, l'existence de Dieu tout entier. Elle le voit clairement. Dans une seule de ses personnes, par exemple, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, parce que chacun de ses attributs, c'est Dieu lui-même. Et elle voit aussi un acte que Dieu produit en lui-même dans son éternité. Et elle voit que chacun de ces actes que Dieu produit est Dieu lui-même à lui tout seul. Et elle le voit. Car chacun de ses attributs, chacun de ses actes sont Dieu lui-même, car en Dieu, l'être, la vie et l'acte sont un. Et c'est ce dont elle témoigne, qu'elle découvre, extasiée dans l'union, cette lumière infinie, ce feu divin infini, comme nous l'avons déjà dit plus haut, de telle sorte que dans chacun de ses attributs qui, comme nous l'avons expliqué, sont innombrables, et dans chacune de ses vertus, chacun de ses actes, il répand une lumière qui est lui tout seul, tout entier. Et dans sa lumière, et dans sa chaleur en tant que Dieu, et ainsi chacun de ses attributs est pour l'âme une lampe qui éclaire et qui lui donne la chaleur de l'amour. Et comme l'âme reçoit dans un seul acte de cette union la connaissance tout entière de ses attributs, Dieu est pour elle comme une foule de lampes réunies. qui, chacune en particulier, l'éclaire de la sagesse infinie et l'embrase d'amour. Ainsi, l'âme est enflammée par chacune de ces lampes en particulier et en même temps par toutes les lampes réunies. Tous ces attributs de Dieu ne sont qu'un être de Dieu à lui tout seul, comme nous l'avons dit, et ainsi toutes ces lampes ne sont qu'une lampe qui, selon les vertus et attributs qui sont propres à Dieu lui-même, dans l'âme qui les possède désormais librement, brille et brûle comme si c'était une foule de lampes de Dieu lui-même. Saint Jean de la Croix était un gars, il était petit, il avait un nez très tordu et il était très laid. Petit, 1m54, je crois. Alors ses frères, qu'est-ce que c'est ce frère? Faut le virer du monastère, c'est leur nom. Et le prieur le mettait à genoux au réfectoire. Et il devait manger à genoux dans l'écuelle comme un chien. Et puis après le réfectoire, on le flagellait. Puis ensuite, il s'est mis au cachot. Et c'est au bout de plusieurs années de cet admirable exercice, dans la nuit obscure de ce cachot, qu'il a écrit Vive flamme d'amour. Or, cet acte a la qualité d'amour spécial de chacune d'elles. Voilà pourquoi, en vertu de l'acte de la connaissance provenant de ces lampes, l'âme aime par chacune d'elles en particulier, et ainsi par toutes réunies. Et chacun de ces actes de son mariage a la qualité d'amour spécial de chacune d'elles et pour chacune d'elles, et de toutes réunies, et pour toutes ensemble en même temps. Et cela, il l'éprouve. Il l'éprouve dans son entendement, et dans les cavernes des sens. Il était élargi par cette sponsabilité de la croix, Saint Jean de la Croix. La croix devient glorieuse, vous voyez. C'est pour ça. Alors, car la splendeur que lui donne cette lampe de l'être de Dieu en tant qu'il est tout-puissant, lui donne la lumière et la chaleur de Dieu en tant qu'il est tout-puissant. Il résulte de là que Dieu est pour l'âme une lampe toute-puissante qui lui donne la lumière, l'amour et toutes sortes de connaissances d'une manière conforme à ce qu'il en éprouve lui-même, Dieu. Est-ce que l'âme éprouve elle-même en lui? La splendeur que lui donne cette lampe selon l'être de Dieu en tant qu'il est la sagesse lui donne la lumière et la chaleur de l'amour de Dieu en tant qu'il est la sagesse. Et de même pour la saveur. Et de là, il résulte que Dieu est pour elle une lampe de sagesse. La splendeur que lui donne cette lampe de Dieu en tant qu'il est la bonté donne à l'âme la lumière et la chaleur de l'amour de Dieu en tant qu'il est substantiellement bonté. De ce fait même, Dieu est pour elle une lampe de substantielle bonté. Et cette substantielle bonté a élargi la caverne des sens pour qu'elle mette cette bonté à l'intérieur de Dieu en réciprocité d'amour avec toutes les autres lampes. C'est beau ça, je passe. La Sainte Écriture raconte que l'une de ces lampes passa autrefois devant Abraham en lui causant une terreur indicible et pleine de ténèbres. Genèse chapitre 15, verset 12. C'était la lampe de la justice vigoureuse de Dieu, qui devait s'exercer plus tard contre les hommes pécheurs. Quant à toutes ces lampes des connaissances de Dieu qui brillent dans le mariage, d'une manière si affectueuse, si délicate, si pleine d'amour, ô âme qui en êtes enrichie et qui en vivez, elle vous apporte, vous le savez, autant de lumière et de délices qu'elles causèrent de terreur et de ténèbres à Abraham. C'est sûr que le jour du châtiment, ce sera une communication de la justice de Dieu. Mais pour ceux qui seront dans le mariage spirituel, ce sera une touche délicate, d'une suavité sans pareil. La même action d'amour de Dieu, envahissant l'un ou l'autre, produira ou l'enfer ou la gloire, selon qu'on aura épousé la croix souffrante et obscure notre Seigneur Jésus-Christ. au cours on aurait poussé l'idée et les plaisirs de la terre. Quelle ne sera donc pas l'étendue, l'excellence et la variété de délices, puisque vous recevez de toutes ces lampes et en toute la jouissance et l'amour. Dieu se communique à vos puissances d'après ses attributs même et ses qualités même. Quand en effet quelqu'un aime et fait du bien à un autre que lui, il agit d'après sa condition et avec sa force et avec sa nature. Eh bien, c'est comme cela que Dieu fait. Il agit avec sa force, sa condition et sa nature. Il est en vous infini. Il vous comble infiniment et de ses faveurs sont substantielles. Il est tout-puissant, il vous comble de sa toute-puissance. Il vous fait du bien, il vous aime avec sa toute-puissance. Il est sage, vous sentez qu'il vous fait du bien avec toute la saveur de sa sagesse. Il est infiniment bon, vous sentez qu'il vous aime avec la substantielle, la substance de sa bonté. Il est saint, vous sentez qu'il vous aime, qu'il vous fait du bien avec sa sainteté. Il est juste, vous sentez qu'il vous aime et vous comble de faveur de manière juste. Et ceci dans une sérénité parfaite, une intimité profonde et une indissolubilité qui fait votre état dans la septième demeure. Alors, il est libéral, vous constatez qu'il vous aime et vous comble de faveur de manière gratuite. Il est chaste et pur et vous sentez que son amour est pour vous entièrement virginal, chaste et pur. Il est vrai, vous sentez qu'il vous aime en vérité, etc. Qui donc pourra exprimer ce que vous ressentez, ô vous qui entendez « Je suis à toi et pour toi ». Je suis content d'être ce que je suis, pour être à toi seul et me donner à toi en entier. Vos entrailles sont comme celles de l'épouse du cantique, semblables à un monceau de blé qui recouvert et entouré de lys. Et en même temps, vous savourez les grains qui serviront à faire le pain de la vie, qui nourrira la contemplation glorieuse du monde angélique. Et vous mettez votre joie dans le lys des vertus qui vous environnent. Et ces vertus qui font frémir vos entrailles sont les filles du roi dont parle David. Elles vous réjouissent par leur parfum de myrrhe, d'aloès, d'ambre et d'autres essences aromatiques, car les connaissances de l'époux vous communiquent de ses grâces et de ses vertus, parce que ce sont ses filles. Et vous vous êtes tellement submergé, plongé dans ces fruitions délicieuses et ces connaissances merveilleuses que vous ressemblez en outre à une fontaine intarissable de sources d'eau vive qui découle avec impétuosité du Liban, qui est le symbole de Dieu lui-même. Là, vous êtes merveilleusement comblé d'allégresse, d'après toute l'harmonie de votre âme et même celle de votre chair, de votre sang et de votre corps. Vous êtes devenu tout entière comme un paradis fécondé par les eaux divines qui trouvent leur repos dans une union indissoluble. Afin que s'accomplissent également pour vous ces paroles du psaume, l'impétuosité du fleuve réjouit la cité de Dieu. Oh, quel spectacle admirable! Il faut pas oublier que Saint Jean de la Croix, quand il écrit ça, il est dans le mariage spirituel. Hein. Il dit ce qu'il prouve au fond de son cachot, entre deux repas et trois flagellations. Voilà cette âme qui épanche alors des eaux divines, elle est transformée en une source abondante qui rejaillit de toutes parts dans les eaux divines. Sans doute les connaissances dont nous parlons sont faites de lumière et le feu de ces lampes divines, mais ce feu, je le répète, est d'une suavité tellement intense que, tout immense qu'il soit, il ressemble à des eaux vives qui étanchent la soif de l'esprit aussi promptement qu'il le désire. Ainsi, ces lampes de feu signifient les eaux vives du Saint-Esprit. Comme elles, celles qui descendirent sur les apôtres, elles étaient à la fois des flammes et en même temps des torrents d'eau vive se répandant sur leur langue, enflammées de suavité apostolique. Elles étaient à la fois des lampes de feu et des eaux pures et limpides, intarissables, et c'est ainsi qu'elles pouvaient parler au monde entier, chacune dans leur langue. C'est beau ça, hein? Je répandrai. C'est beau ça, témoigna le sage dans la croix, hein, qui montre que quelque part, les apôtres ont reçu une touche du mariage spirituel de septième demeure à la Pentecôte. Ça, c'est la communication de Marie, ça, vous voyez. C'est Marie qui a donné de son mariage immédiatement communication à la Pentecôte aux apôtres. Ça sera beau, vous voyez, quand on méditera le mystère de la Pentecôte, vous voyez. De faire le lien entre les demeures et puis les mystères du rosaire. Ô lampe de feu, ô lampe de feu. Oui, quand elle considère celle qui est ainsi mariée de la communication de l'esprit de ses lampes, lorsqu'elle considère qu'elle en est embrasée, et qui est embrasée par le feu et la chaleur de ses lampes qui brûlent d'elle, qui est placée dans l'exercice de l'amour, qui est dans l'acte d'amour, elle les appellera alors plutôt des lampes que des eaux vives. Et c'est pour ça qu'elle dit « Ô lampe de feu » plutôt que « source d'eau vive ». C'est ça, je crois, ce que j'ai. Tout ce que l'on veut dire ici est très au-dessous de la réalité. Parce que la transformation de l'âme en Dieu est quelque chose de vraiment ineffable. Tout se résume en un mot. L'âme devient Dieu par une participation effective à la nature de Dieu même et à ses attributs que nous désignons ici sous le nom lampe de feu. Verset suivant. Ô lampe de feu, dans les splendeurs desquelles, dans la profonde caverne des sens. Ah, alors là, il va faire encore 7-8 pages sur le mot splendeur des lampes de feu. C'est génial. J'espère que tout le monde va connaître les flammes d'amour par cœur. C'est quelques passages. Il faut savoir ce que c'est que l'horizon quand même. Ce que nous venons de dire et ce que nous allons exposer nous fera comprendre plus clairement toute l'excellence des splendeurs de ces lampes dont nous parlons. Et qu'on peut appeler aussi des obombrations. Vous voyez ? Obombrations, dans l'Annonciation, Marie a vécu cette obombration. Pour l'intelligence de cette affirmation que je vous fais, il faut savoir que l'obombration n'est rien d'autre que l'action qui produit de l'ombre. Et que cette action équivaut à celle de protéger. Mais vous voyez, comme c'est de l'intérieur, c'est une ombre qui vient de l'intérieur pour vous protéger. C'est un signe. Favorise, accorde des grâces, car si une personne en couvre une autre de son ombre et de l'intérieur la met dans son ombre, alors cette action, c'est un signe qu'elle est tout près d'elle pour la favoriser, la protéger. Voilà pourquoi, voulant désigner l'insigne faveur que fut accordée à la Vierge Marie lorsque le Fils de Dieu s'incarna en elle, l'ange Gabriel l'a appelée obombration. Il y a en effet l'Esprit Saint surperviendra au-dedans de vous et la puissance du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Pour bien comprendre ce que signifie cette ombre de Dieu, voilà ce que c'est la splendeur des lampes. Hein? La splendeur des lampes, c'est l'obombration. Ou cette obombration, ou ces splendeurs, car toutes ces expressions désignent la même réalité expérimentée dans le mariage, il faut savoir que chaque chose produit une ombre qui est en rapport avec sa forme. Si je passe ici, je passe la main, ben voilà, ça fait une ombre qui reproduit la forme, une certaine forme, et avec ses propriétés. Et si la chose est opaque ou obscure, elle donne une ombre obscure, mais si la chose, comme ma main, elle est opaque. Mais si Dieu, lui, est lumière, elle reproduit la lumière. Et c'est tout à fait exact, en effet. Hein? L'ombre de Dieu, c'est une lumière inénarrable. Ainsi, l'ombre d'une chose ténébreuse sera ténébreuse comme elle, mais l'ombre d'une lumière sera également lumière comme elle. Voilà pourquoi, voyez, les splendeurs, voilà pourquoi les lampes de feu sont remplies de splendeur. Puisque les lampes de feu font une ombre, elles sont splendides. Et les splendeurs, c'est une obombration de lumière. C'est une obombration illuminante. Et oui, les attributs, les vertus des lampes embrasées resplendissantes qui se trouvent très rapprochées de l'âme ne pourront manquer de la toucher de leurs ombres, et ces ombres seront donc embrasées resplendissantes. Et ainsi l'ombre que produit sur l'âme la lampe de la beauté de Dieu sera une autre beauté conforme à la beauté substantielle de Dieu et à la propriété de la beauté divine. Et c'est ainsi que rebondissent de splendeur en splendeur toutes les lampes ineffables qui illuminent l'âme dans le mariage. C'est toujours pareil, la mère sereine, indissoluble et intime. Personne ne le voit. Mais qu'est-ce qu'il est laid? Tandis que dans la sixième demeure, vous rentrez en extase, tout le monde le voit. Hein. Ah. Dans le mariage, personne ne le voit. C'est les deux demeures les plus proches, et du point de vue pathologique, si vous voulez, de l'extériorité, les plus loin, les plus différentes. Vous ne pouvez pas faire plus loin. La sixième et la septième demeure du point de vue de l'extérieur. Vous voyez ? Mais du point de vue de l'intérieur, c'est les plus proches. Ah, quels ne seront pas les sentiments de celui qui éprouve ici, par cette connaissance vivante, expérimentale de Dieu, ce que furent les enseignements de la vision d'Ézéchiel lorsqu'il contempla des animaux mystérieux aux quatre faces. Et une roue composée de quatre roues. Il vit que l'aspect de ces animaux mystérieux était comme celui de charbons embrasés et de lampes ardentes. Hein? Hein, si vous voulez lire la Bible, correctement, il faut prendre Saint-Jean de la Croix. Ézéchiel a vu des roues. Ah, oui, ça y est, il a vu des soucoupes volantes. J'ai vu ça, hein. J'ai lu ça. Je vous promets, j'ai lu ça. Je l'ai lu. Non mais faut y arriver, hein. Faut y arriver, hein. Non mais arriver à de la nullité aussi inouïe, il n'y a que le diable qui peut produire un miracle pareil dans l'intelligence de l'homme. L'intelligence de l'homme est faite pour dire des choses sensées quand même. Non, non, c'est du secours volant. L'angle de feu des églises. Il vit que l'aspect de ces animaux mystérieux était comme celui de charbons embrasés, de lampes ardentes. Il remarqua en outre que la roue, symbole de la sagesse infinie, était remplie de Dieu au-dedans et au-dehors pour signifier les connaissances de Dieu et les splendeurs de ses vertus. Que n'éprouvera-t-elle donc cette personne qui, dans l'oraison, vit du mariage avec Dieu quand elle entendra dans son esprit même le bruit de cette marche ressemblant au bruit d'une multitude d'armées innombrables, de multitudes impossible à dénombrer, qui symbolise les innombrables grandeurs de Dieu associées toutes ensemble. En une seule grandeur d'un bruit, d'une présence effective, l'âme les connaît parfaitement ici, dans le bruit d'un seul pas que le Seigneur fait pour elle, au-dedans d'elle, du dedans de sa demeure intérieure. Enfin, que n'éprouvera-t-elle pas, parce qu'elle entendra le bruit du battement d'ailes de ces animaux, car au dire d'Ézéchiel le prophète, il ressemblait au bruit des grands eaux et à la voix du Tout-Puissant. Ce bruit signifie l'impétuosité de ces eaux divines dont nous avons parlé et qui investissent l'âme quand l'Esprit Saint les lève dans cette flamme d'amour, la remplissant de l'allégresse intérieure que l'épouse éprouve dans le feu du Saint-Esprit qui l'unit à son époux le Père. C'est pour ça la connaissance expérimentale de la présence. Ô excellence de Dieu, que vous êtes admirable, bien que ces lampes des attributs divins ne soient qu'un être simple et se goûtent qu'à l'intérieur du dedans de lui, chacune d'elles se voit et s'écoute d'une manière distincte, aussi embrasée l'une que l'autre, car chacune d'elles est substantiellement l'autre. Ô abîme de délices, vous êtes d'autant plus riche que vos trésors sont plus cachés dans votre unité et simplicité infinie.
Là, on connaît et on goûte l'un, vous attribue sans nuire à la connaissance et au goût de perfection qu'on a de l'autre. Chaque grâce, chaque lumière qui tient au-dedans de vous est aussi la lumière de chacune de vos autres grandeurs. Parce que par votre pureté, ô divine sagesse, beaucoup de choses se voient du dedans de vous. Quand on en voit une seule, vous êtes en effet le dépôt des trésors du Père. Vous êtes la splendeur de la lumière éternelle, le miroir sans tache, l'image de sa bonté. Voilà pour la Trinité encore une fois. Dans les splendeurs desquelles les profondes cavernes du sens. Alors, et ça va expliquer comment l'action de transformation se réalise de manière si différente dans l'intelligence, dans le cœur et dans la liberté du don de la mémoire de Dieu. Et donc il va y avoir 9 transformations, si vous voulez, différentes dans les cavernes du sens, elles-mêmes totalement élargies à cette action divine, pour qu'elles puissent se faire dans le repos, la délicatesse, la sérénité et le secret, tout en mobilisant toute la sensibilité de l'âme. Il n'y a plus de vie de l'esprit là. C'est une extase perpétuelle, mais qu'on ne voit pas de l'extérieur. La personne qui en jouit l'aperçoit. Ainsi donc aux âmes qui avaient été choisies pour être chrétiennes. Quand Dieu vous accorde des grâces si souveraines qu'il vous élève à l'état de solitude et de recueillement, quand il vous rend libre du travail pénible de la sensibilité, du ressenti, n'y retournez plus. Laissez de côté vos manières d'agir personnelles. Si, précédemment, quand vous n'étiez pas dans le Christ, quand vous étiez au début de la vie spirituelle, que vous cherchiez Dieu, inspiré par le prince des ténèbres, vos ressentis et vos sens vous étaient d'un secours qui a fini par vous pousser à renoncer aux choses de la terre, à renoncer au monde, à renoncer à vous-même. Mais maintenant que Dieu vous accorde la grâce, soyez ceux qui portent cette grâce par laquelle il est lui-même le facteur de votre perfection. Sinon, tout ce qui vient de la terre, tout ce qui vient de vous, et même de vos désirs, ne serait qu'un véritable obstacle et un immense embarras. Veillez seulement donc à ce que vos puissances ne s'arrêtent à rien. Détachez-les, votre cœur, votre intelligence, votre liberté profonde, détachez-les de tout. Ne les embarrassez de rien. Vous n'avez pas à faire maintenant autre chose dans l'état de raison. Ajoutez à cela une attention amoureuse et simple, celle dont nous avons parlé, aux splendeurs des lampes que le Seigneur allume dans la transformation de l'âme et dans les cavernes de vos sens. Exercez-la de manière que nous l'avons expliquée, c'est-à-dire quand vous n'y éprouvez pas de répugnance, mais évitez toute contrainte, ne forcez pas. Évitez toute contrainte intérieure, ne vous contraignez pas. Ne forcez pas. Ne faites pas de position pour vous y obliger. C'est Dieu qui le fait, voyez. Pour ne point troubler ni altérer votre paix et votre tranquillité, c'est alors que, ne découvrant plus en vous le moindre obstacle, Dieu vous nourrira d'un aliment tout céleste par lui-même et librement, puisque vous lui en aurez laissé la liberté. Strophe 4. Avec quelle douceur et quel amour vous vous réveillez dans mon sein,
où vous demeurez seul en secret, scellé, et avec votre aspiration savoureuse pleine de bien et de gloire. Quelle délicatesse, Seigneur, vous mettez à m'embraser d'amour. Dans ces versets, l'âme se tourne avec le plus ardent amour vers son époux en s'y reposant, comme toutes ces merveilles se passent au plus intime de sa substance. L'âme dit aussitôt, « Oh, vous demeurez seul, scellé, en secret. » L'âme dit que celui qui l'épouse, que la divinité qui l'épouse demeure secrètement pour de